Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet devenu incontournable dans le monde professionnel, la santé mentale au travail. Entre charge mentale, pression des objectifs, manque de reconnaissance ou difficultés organisationnelles, de nombreux salariés tentent chaque jour de préserver leur équilibre dans des environnements parfois exigeants. Pour mieux comprendre ces enjeux et donner des clés concrètes à nos auditeurs, nous recevons notre psychologue Dr Nawal Darghal, spécialiste des risques psychosociaux et de l'accompagnement des travailleurs en situation de stress. Avec elle, nous allons décrypter les signaux d'alerte, les mécanismes du mal-être professionnel et les pistes pour construire des milieux de travail plus humains et plus sains. Bonjour Nawal et merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois.
Bonjour, merci.
Tout d'abord, quels sont les premiers signes qu'un salarié est en train de s'épuiser psychologiquement, même s'il est contenu à tenir au quotidien?
Oui, alors il y a plusieurs signes qui peuvent être révélateurs. C'est souvent en fait le salarié devient plus irritable. Il fait le minimum sans s'en rendre compte. Il dort mal, se déconnecte émotionnellement des collègues. Il commence à redouter le lundi dès le vendredi soir. Et le signe le plus révélateur, c'est qu'il ne se plaint pas. Mais en fait, il disparaît intérieurement.
Merci beaucoup, Nawal. Est-ce que vous recevez des patients qui sont dans cette situation?
Oui, alors j'ai des patients qui viennent justement pour stress professionnel. Et heureusement que c'est une situation qui est réversible. Et en général, ça naît d'une pression ponctuelle. Et quand disparaît la situation, qui se résout, et donc les gens récupèrent le week-end et après les vacances. Mais après, le distinguo à faire, c'est avec la charge mentale qui, elle, est plutôt structurelle et invisible, et elle peut devenir dangereuse. Quand la récupération justement ne suffit plus, le repos ne restaure plus l'énergie. Là apparaissent souvent des symptômes d'hypervigilance ou de rumination nocturne. On a tendance à se refaire les films avant de dormir et puis on n'arrive pas à trouver le sommeil. La personne ne sait plus pourquoi elle tient. Il y a une perte de sens qui est souvent associée à l'épuisement. Et malheureusement, le corps prend le relais. Alors, les troubles du sommeil s'installent. Il y a de la somatisation. Alors, ça va être des troubles intestinaux, des palpitations au cœur, alors que physiologiquement, il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Mmh. Et puis, une irritabilité chronique.
Alors, comment expliquer scientifiquement que certaines personnes s'épuisent sans s'en rendre compte, alors que d'autres identifient très tôt leurs limites?
Oui, vous avez des gens qui arrivent justement à se connaître suffisamment et à être connectés à leur intériorité et qui arrivent justement à trouver des sas de décompression. Donc c'est une manière en fait d'appréhender le travail et de savoir aussi le compartimenter et le mettre là où il faut sans qu'il puisse déborder sur notre intériorité. Dès qu'il déborde sur notre intériorité et que l'espace intérieur est justement phagocyté par toutes les injonctions du travail, c'est à ce moment-là qu'on n'arrive plus à avoir les choses. C'est pour ça que les gens qui arrivent à avoir à côté une certaine hygiène de vie ou ce que moi j'appelle, comme je dis, des décompressions, c'est-à-dire des espaces où ils peuvent justement un peu extérioriser leurs tensions et avoir une prise de recul par rapport à ce qu'on attend d'eux au travail, ben ça permet justement de tenir à la pression en fait, et d'avoir moins et d'être moins justement d'entrer dans ce couloir du burn-out silencieux.
Nawal Darghal, quel rôle jouent les croyances personnelles comme je dois être fort ou je n'ai pas le droit d'échouer dans l'épuisement professionnel?
Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que on est souvent dans l'injonction à la résilience. D'ailleurs, tout le monde est sous pression, mais il faut tenir. Et ça invalide en fait la souffrance et ça ferme le dialogue avec soi-même. Donc on refuse de s'écouter et de se dire non là, je vais devoir prendre du temps pour moi, je vais poser une demi-journée et ça va me permettre de prendre du recul. Et ensuite, il y a souvent dans la croyance que j'ai pu aussi noter, moi, c'est la confusion entre disponibilité et engagement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on récompense ceux qui répondent à 22 heures et qu'on ignore ceux qui produisent efficacement dans leurs heures. Donc ça aussi, ça fait partie d'une des croyances. Il y a aussi le management par l'évitement, c'est-à-dire que vous avez des managers qui ne vont pas nommer le conflit, les tensions, les problèmes de charge, qui vont être dans une fuite et en espérant que ça se règle seul. Et donc le non-dit s'accumule et ça crée justement une pression encore plus importante, et ça vient ancrer les croyances du salarié, parce que le silence génère en fait des interprétations personnelles. Mmh. Et puis après, vous avez la sursollicitation des plus fiables, c'est-à-dire qu'on dit, ben, on donne toujours plus aux meilleurs éléments jusqu'à les épuiser. Voilà. Et parce que justement, les meilleurs éléments ne se plaignent pas, alors que ça n'empêche pas qu'ils soient épuisés intérieurement.
Alors, quels sont les facteurs organisationnels qui contribuent le plus à la détérioration de la santé mentale, même dans des équipes performantes?
Alors, là, ce qui... c'est le rôle, en fait, des risques, en fait, qu'on appelle émergents, qui sont sous-estimés. C'est-à-dire que vous avez trois grands angles qu'on peut envisager, c'est-à-dire la perte de lien social et perte de sens qu'on peut mettre dans l'isolement du télétravail, par exemple. Aussi la pression numérique, l'hyperconnexion, la notification permanente. Et du coup, il y a un droit à la déconnexion qui est beaucoup prôné dans certaines entreprises pour justement contrecarrer cette pression numérique. Et enfin, vous avez... En troisième angle, le flou des frontières, c'est-à-dire ce que je disais un peu précédemment en répondant à une de vos questions, c'est qu'entre vie pro et vie perso, justement, la frontière devient très floue. Et justement, les entreprises mesurent encore le bien-être avec des enquêtes annuelles. Ils essayent justement d'instaurer une politique RH où on va venir faire en sorte, en fait, que le bien-être de l'individu soit suffisamment... considéré pour qu'ils ne puissent pas justement être dans un épuisement.
Noël, à quel moment une culture d'entreprise devient toxique, même si elle se présente comme exigeante mais bienveillante?
Dans l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui justement ont une politique RH qui est très axée marketing RH, moi ce que j'appelle du marketing RH, on va prôner le bien-être, la qualité au travail, les moments de convivialité, mais de l'autre côté, en fait, on va être dans une réalité qui va être vraiment très à l'inverse des valeurs qui sont prônées, et c'est souvent ça qui va venir perturber en fait le salarié et engendrer justement le stress professionnel qui peut créer aussi des burn-out silencieux.
Noël Derral, comment une entreprise peut-elle mesurer réellement le bien-être de ses salariés au-delà des enquêtes anonymes classiques?
Alors, c'est toujours difficile, mais beaucoup d'entreprises font des questionnaires. Alors après, les questionnaires fonctionnent plutôt bien. Après, vous avez des indicateurs comme le taux d'absentéisme qui permet justement de se rendre compte aussi de l'état d'une équipe. Il y a aussi les enquêtes en interne qui peuvent être faites. Alors, il faut obliger les salariés à y répondre, parce que si on ne les oblige pas, malheureusement, dans la plupart des cas, la moitié des questionnaires sont remplis. C'est vrai que c'est très compliqué. Entre des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, enfin, il y a beaucoup de choses qui existent. Après, c'est vrai que le manager a aussi un rôle important, parce que c'est le manager de proximité en fait qui va pouvoir justement identifier des tensions et les faire remonter au RH pour justement anticiper. Donc, je pense que la formation des managers est très importante, tout en tenant compte de la solitude des managers pour les accompagner sur ce type en fait d'appréhension ou de vigilance à avoir sur des comportements d'individus.
Et certaines personnes ressentent une culpabilité lorsqu'elles prennent soin d'elles ou demandent une pause. À votre avis, pourquoi ce sentiment?
Je pense que c'est parce que la personne, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, est ancrée dans certaines images, imagos Et on peut appeler ça aussi des croyances, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être le mauvais salarié et de démissionner de son poste, alors que pas du tout. En fait, il faut vraiment comprendre que cette culpabilité émane aussi d'une exigence qu'on a vis-à-vis de soi, mais qui n'est pas forcément juste. Donc je pense qu'il faut savoir justement se rendre compte que si on ne va pas bien, si on ne sait pas s'arrêter, on risque de se faire mal sur du très long terme. Et c'est cette prise de conscience qui est importante en fait. C'est que la santé mentale, elle se travaille tous les jours. Vous savez, c'est comme un poison. C'est-à-dire que si vous mettez une dose de poison par parcimonie tous les jours, c'est le cumul en fait qui fait qu'à un moment, ça va être toxique. Et donc de bonnes habitudes et savoir s'écouter.
Nawal, comment on différencie une fatigue émotionnelle passagère d'un début de burn-out ?
Alors, quand on arrive sur le burn-out, en fait, la personne fonctionne encore, mais sur les réserves.
Au ralenti.
Comment ? Au ralenti, oui, c'est exactement. Et il y a une fatigue, en fait, qui s'insère progressivement et qui va être, en fait, un état de fatigue intense où la personne, justement, ne va pas... comprendre ce qui lui arrive en fait. Elle va être même surprise de ne plus pouvoir. C'est comme un bug en fait qui s'installe malgré soi. Et donc c'est une fatigue avec un sentiment d'échec. La personne a du mal à se concentrer. Elle essaie de travailler davantage pour essayer de retrouver une satisfaction ou confiance en elle, mais malgré ça, en fait, les conditions de travail restent difficiles. Et donc, il y a un cercle vicieux qui va s'installer jusqu'à l'épuisement. Alors après, vous parliez de signes physiques, et justement, la fatigue permanente, le mal de dos, l'insomnie, comme je disais, il y a la migraine aussi, que j'avais pas cité, le maux de ventre, des infections fréquentes. Et tout ça, en fait, c'est une souffrance psychique qui peut aussi se manifester par un vide émotionnel et puis de l'anxiété, sous toute forme.
Quand on parle de la souffrance dans le travail, on parle aussi du rôle des managers et des collègues. Comment un manager peut-il intervenir sans être intrusif lorsqu'il sent qu'un membre de son équipe va mal ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le manager, en fait, lui, il doit avoir en fait une capacité d'écoute et de gestion de communication. Et en fait, dans son rôle, c'est surtout de moi ce que je conseille quand j'anime des groupes d'analyse de pratique avec des managers de proximité, c'est justement de créer en fait une sorte de communication informelle avec le salarié qu'on identifie potentiellement en souffrance et en l'invitant à prendre un café ou à déjeuner avec lui tout en restant dans le cadre du travail, mais en tête à tête, et puis d'essayer justement de le faire parler. En faisant des remarques, en disant en ce moment je vois que tu es un peu fatigué, ou en ce moment je vois que tu arrives très en retard de manière très régulière, qu'est-ce qui se passe, tout va bien, est-ce que tu as besoin d'aide, enfin voilà. Je pense venir en fait avec une oreille et de la bienveillance et des solutions en fait à proposer.
La qualité de l'écoute est très importante.
Oui, complètement. Oui, on en revient souvent à ça, malheureusement.
On parle toujours de la santé mentale dans le travail. Quelles erreurs commettent souvent les collègues lorsqu'ils veulent aider, mais aggravant involontairement la situation ?
Alors. Malheureusement, alors elles sont variées. Les erreurs, en fait, c'est quand on se met à juger surtout. C'est quand les collègues se mettent à juger et à être dans la médisance. Et donc là, ça peut encore plus isoler le collègue qui est dans un mal-être. Après, il y a tout ce qui est aussi, le fait de ne pas dire bonjour ou de prendre pour soi un comportement qui est lié à l'irritabilité du collègue et de penser que c'est adressé à soi aussi, vous voyez. Et donc l'idée, c'est surtout de continuer à dire bonjour à son collègue le matin, pas être trop bavard non plus, mais savoir communiquer aussi, et puis surtout, c'est vraiment ne pas être dans le jugement.
Comment instaurer un climat où la vulnérabilité n'est pas perçue comme une faiblesse professionnelle?
Bah ça, ça fait partie des cultures d'équipe. Et en fait, c'est de la communication en interne. C'est-à-dire que le manager doit porter en fait un discours où il va venir justement créer une culture où demander de l'aide est normal. Et ça commence par le haut, en fait. Quand un manager arrive à dire « aujourd'hui, j'ai été débordé cette semaine » ou « j'ai consulté un psy », ben en fait, il normalise la vulnérabilité. Donc, il faut après que ça suive hein, dans le concret. Donc, ça va être des espaces concrets, des entretiens réguliers qui sont pas liés à la performance, avoir des pairs formés à l'écoute. Et puis surtout, c'est que qu'il y ait zéro conséquence visible sur la carrière pour ceux qui parlent. Parce que c'est ça, en fait, qui fait le plus peur aux salariés.
Merci beaucoup, Nawal Darghal. Merci à notre psychologue, Nawal Darghal, pour ces éclairages essentiels sur la santé mentale au travail. Cette conversation nous rappelle que derrière chaque poste, chaque fonction, il y a une personne avec ses limites, ses émotions et ses besoins. Promouvoir un environnement professionnel sain n'est pas seulement une responsabilité collective, c'est aussi une manière de protéger la dignité, la créativité et la sécurité de chacun. Que cette discussion inspire nos auditeurs à écouter davantage, à prévenir plutôt qu'à réagir et à faire de leur lieu de travail un espace où l'on peut réellement s'épanouir. Merci beaucoup, Nawal.
Merci, Zora.
Allô, docteur. Allô, docteur, sur Radio Orient.